Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nous sommes dans la joie ce matin d'être ensemble dans l'adoration. Et je suis très contente d'être parmi vous. J'étais contente là, le week-end dernier et ce matin, on va encore bénir le nom du Seigneur dans votre présence. Merci, je suis très contente aussi de voir mon pasteur, sa femme et tout le monde. Nous sommes une grande famille, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse.
Voilà, que la grâce et la paix soient avec vous qui êtes en Jésus-Christ. Je suis heureux de venir vous parler ce matin. Et je dois remercier déjà Pasteur André pour son invitation, pour ton invitation. J'apprécie grandement ta simplicité, ta qualité exceptionnelle, ta foi aussi. Je me sens vraiment très honoré d'être le messager de ce jour. Merci maman Michel, merci à mon Dieu, merci Édouard, merci aussi aux responsables de l'Église, merci à vous pour votre accueil, merci au groupe de l'Orange. Je suis responsable de l'aumônerie protestante avec la Fédération de France ici dans les Yvelines, entre autres. Je suis votre aumônier, je suis pasteur de l'Église évangélique de France, membre de la Fédération protestante de France. Je suis membre aussi de la pastorale du Mont-Trois. Malgré avec les difficultés, je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai trouvé quand même quelques heures pour être avec eux. Et ma femme qui s'est présentée tout à l'heure, et ça fait 40 ans de mariage, nous avons 5 grands-enfants, 5 petits-enfants et la première petite fille qui a 19 ans, elle va recevoir le baptême le 16 avril 2022. Je veux vous dire effectivement que nous ne sommes pas jeunes, mais nous sommes beaux parce qu'il y a l'Évangile qui habite en nous, qui trouve de la place en nous. Le week-end dernier, j'ai été béni comme vous et pour nous, c'était une grande bénédiction vraiment de participer à ce temps de louange. Jésus, le Fils de Dieu, l'ancien des anciens, juste avant son départ pour le ciel, il posa 3 questions à son apôtre Pierre dans le livre de Jean, chapitre 21, verset 21. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ça, c'est difficile à répondre. M'aimes-tu? Pierre lui répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Ah, je pense aux pasteurs qui sont en Ukraine maintenant, avec leurs brebis au fond d'une cave. C'est dur, hein? Par ce verbe, paître d'un berger, le Seigneur demanda à Simon-Pierre d'être le gardien de ses brebis. C'est une grande responsabilité de le nourrir, de leur donner de l'eau fraîche et de veiller avec attention sur ses brebis. Aujourd'hui, l'apôtre Pierre n'est plus là. Il est parmi les morts. Cette responsabilité du verbe « paître » nous incombe tous en tant que membres de la famille de Dieu. Oui, nous sommes tous membres de la famille de Dieu. L'Éternel dit à son serviteur Moïse dans le livre de Nombre, chapitre 11, verset 16 à 17, Nombre, chapitre 11, verset 16 à 17, « Assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. L'Éternel, en prenant l'esprit qui est sur Moïse et le déposer sur les 70 anciens, il voulait qu'il soit comme l'ancien Moïse, sage, obéissant, intègre, fidèle, hospitalier et bon conducteur. Car la principale mission, c'est d'aider Moïse à porter la charge du peuple pour qu'il ne soit pas seul à la porter. Il est juste bon de travailler en équipe sous l'autorité de l'Esprit Saint pour que l'œuvre de Dieu soit parfaite. Le pasteur André, tout à l'heure, il a parlé de l'unité. C'est dans l'unité que nous pourrons remporter la victoire sur le prince de ce monde. Quand il n'y a pas l'unité, tout casse. Mais quand il y a l'unité, il y a la solidarité et l'Église du Seigneur est toujours debout malgré les difficultés. J'ai choisi pour vous ce matin un ancien que nous trouvons dans la troisième épître de Jean, troisième épître de Jean, versets 1 à 8. Voilà, c'est un seul chapitre. Je vais vous demander de bien vouloir vous mettre debout et nous allons faire cette lecture ensemble. Voilà, je lis pour nous. L'ancien à Gaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Prenez place, s'il vous plaît. Alors, en grec, le mot « ancien » a une double traduction. Il y a paléos, qui signifie vieux, âgé, ancien. Il y a aussi presbytre, qui signifie prêtre, surveillant. Épiscopos, on trouve ce mot dans le presbytre, qui signifie évêque. Acte 17, verset 20. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église, c'est-à-dire le gouvernement principal de l'Église. Mais le frère Gaïus, un ancien d'un cœur d'amour, parce que le sujet c'est l'ancien Gaïus, un frère fidèle et hospitalier. Il pourvoyait aux besoins des saints de son Église et des étrangers du passage. Ça c'est extraordinaire. Acte 4, ça me fait penser à Acte 4, verset 32. Le texte nous dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient sans propre, mais tout était commun entre eux. ils vivaient l'un pour l'autre. De même, vous aussi, vous vivez dans l'unité, dans la solidarité, dans la fraternité. L'apôtre Jean voyait chez l'ancien Gaius les qualités suivantes. C'était un frère hospitalité, il avait de l'hospitalité, il avait la générosité, la vérité et l'humanité. Ce sont aussi des valeurs chrétiennes que nous devons écrire dans notre CV évangélique avec de l'encre indélébile. C'est-à-dire, nous devons procéder ce qu'on appelle l'hospitalité, la générosité, la vérité et l'humanité. Oswald Sanders a écrit dans son livre sur le leadership, « Le vrai leader considère le bien-être des autres comme souci principal plutôt que ses propres conforts et prestiges. » Le chrétien, il pense déjà à ceux qui souffrent, à ceux qui sont dans la misère, tout comme nous pensons bien sûr à nos amis ukrainiens. Dans le Nouveau Testament, le prénom Gaius est mentionné 5 fois, toujours associé à un compagnon de ministère. C'est un nom gréco-romain. Gaius, en grec ou en latin, il y a Gaius aussi, deux noms, Gaius en grec et Caius en latin et Caius en grec. Mais Caius fonctionne toujours avec une autre personne. Si nous regardons dans Actes chapitre 19, verset 23, vous allez voir, il y a Caius et Aristarque qui marchent ensemble, côte à côte. Deuxièmement, si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14, vous allez tomber sur Gaius et Crispus. C'est-à-dire le fonctionnement de l'Église d'autrefois était une collectivité et non une Église d'individualité. L'Église que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, il y avait un gouvernement. C'est-à-dire il y avait bien sûr les apôtres, il y avait les évangélistes, les pasteurs et les docteurs qui fonctionnent ensemble pour l'édification commune de l'Église. Troisièmement, nous voyons, il y a Gaius aussi de Derbe, l'un des 7 compagnons de l'apôtre Paul, acte 20, verset 4. Il y a Gaius aussi dans Romains chapitre 16, verset 23. C'était l'autre de l'apôtre Paul. Selon l'apôtre Paul, Gaius est l'ancien de toute l'Église. Il n'était pas membre d'une communauté, d'un groupe d'Église, mais toute l'Église. Non pas une sélection de groupes, de personnes, mais l'ensemble de l'Église. L'ancien est à la tête d'une Église et non d'une partie de son Église. Les 70 anciens de Moïse n'étaient pas responsables d'une tribu, mais les 12 tribus. C'est-à-dire que nous, en tant que responsables, nous avons sous notre responsabilité tous les membres de la communauté, parce que vous êtes tous des enfants du Seigneur. Et si vous lisez dans la 3e épître de Paul et de Jean que nous venons de lire, il y a Gaius, effectivement, qui fonctionnait avec l'apôtre Jean et qui avait reçu, bien sûr, des compliments. C'était quelqu'un de bon cœur, quelqu'un qui avait de l'humanité, de la générosité et qui prenait soin de sa communauté et qui prenait soin aussi de ceux qui étaient de passage. C'est pour cette raison que je vous disais dès le départ, l'ancien Gaius, c'est un frère fidèle et hospitalier. Mais il a reçu des compliments qui avaient reçu, bien sûr, l'agrément du Dieu très haut. Quand tout est bien fait par amour pour la seule glorification de Dieu, les cieux se réjouissent et les myriades d'anges chantent, dansent, louent et poussent des cris de joie. Tout à l'heure, nous avions chanté, mais les anges de Dieu chantent en même temps que nous parce que nous chantons pour Dieu, notre Créateur. Quand nos actions sont bonnes, agréables et belles aux yeux de Dieu et de son Église, nous recevons immédiatement les acclamations de tous les anges des cieux. Hébreux chapitre 1, verset 4, Jésus-Christ, il est retourné dans le ciel après sa résurrection, eh bien, il était devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Quand nous faisons des choses pour le Seigneur nous regarde et il prend soin de cette chose-là que nous avons faite pour lui. Dans le psaume 119, versets 4 et 5, vous allez voir ces deux versets. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puisse mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Deux choses importantes qu'un chrétien doit exécuter avec attention selon le psaume 119. Observer avec soin les ordonnances de Dieu, de bien régler, de bien fixer ses actions dans toutes les circonstances de la vie. Mais voyons maintenant le fonctionnement collectif entre l'apôtre Paul et ses compagnons de ministère. Dans Romains chapitre 16, verset 23, il y a Erast, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Catus. Alors, il y a Erast, il y a Catus qui marchent ensemble. Il y avait l'entente et l'unité des compagnons de Paul et ça fonctionnait parfaitement bien. Chers bien-aimés, tout marche bien quand l'Esprit Saint de Dieu occupe toute la place dans nos vies, dans nos activités. Mais nous ne sommes pas à l'abri des attaques maléfiques de l'adversaire. Il est contre nous, mais notre Dieu, il est pour nous. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. La vraie mission d'un chrétien d'église, c'est de parler des souffrances de Christ, d'accepter de participer à ces mêmes souffrances. Luc chapitre 19, verset 23. Et puis Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est de prendre soin de l'Église, de lui-même et de sa famille, c'est d'annoncer l'Évangile de Christ. C'est de vivre dans l'espérance de participer un jour à la manifestation de la gloire de Christ dans les lieux célestes et de mettre en application les directives de l'Esprit Saint. L'apôtre Jean employait un mot doux et familier à l'ancien Gaius dans les versets 1 et 2. Le mot « bien-aimé », celui qui est aimé d'une façon particulière, c'est une personne aimée d'amour profond comme Dieu. Si nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 16, le texte nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'autre mot sous la plume de l'apôtre Jean, « le bien-aimé que j'aime dans la vérité », c'est-à-dire que j'aime dans l'amen, dans la parole de Christ, le Seigneur, que j'aime du plus profond de mon cœur. Le Seigneur nous aime vraiment totalement et nous aussi, nous devons aimer le Seigneur de tous nos cœurs et de toutes nos pensées. Dans la prière sacerdotale de Christ, dans Jean chapitre 17, verset 17, il prie ainsi, « Père, sanctifie-les par ta parole, par ta vérité, ta parole est la vérité. » La parole de Dieu, c'est une parole de vérité qui habite en nous. Alors, vérité en hébreu, il y a un mot qui s'appelle « émet », qui signifie en français « exactitude », « sincérité », « intégrité », « authenticité », « fidélité », « ce qui est solide et digne de foi ». Vérité en grec, « aletheia », signifie en français « vérité », « véracité », « ce qui est vrai », « ce qui appartient à Dieu ». C'était cette vérité qui habitait dans l'âme de l'ancien Gaius, qui habite en nous aussi la vérité qui vient de Dieu. Le chrétien sauvé par Christ, quel que soit son titre, quelle que soit sa valeur, dans son quotidien, il y a l'intégrité, l'authenticité, la fidélité. Il est habité par la miséricorde de Dieu. Il remplit totalement le cœur de son Dieu, comme le serviteur Job. Étant donné en nous,
il y a la sincérité, la véracité, il y a la vérité comme chez Gaius, eh bien, nous remplissons, bien sûr, le cœur de Dieu. De Jean 1, 3, que la grâce et la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Le chrétien, il possède en même temps la vérité et la charité. Vous regardez le roi Ézéchias de Juda qui avait reçu une mauvaise nouvelle qu'il allait mourir. Eh bien, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a adressé une prière deux fois devant le trône de Dieu en disant, Seigneur, je ne veux pas mourir. Cela veut dire que le chrétien ne peut pas vivre sans la prière, parce que la prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes du Seigneur. Et le roi Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en avant dans sa prière d'intercession, devant le trône de Dieu, sa façon d'être, sa fidélité et son intégrité du cœur. Le catalogue spirituel de celui qui est chrétien, de celui qui est responsable, c'est d'être sincère, fidèle, intègre et de faire ce qui est bien dans sa vie, comme le roi Ézéchias, qui avait marché fidèlement devant Dieu. Dans le psaume 25, verset 5, le psalmiste David a prononcé une parole forte. « Seigneur, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Un autre mot familier de l'apôtre Jean à l'ancien Gaius, que nous avons lu tout à l'heure, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Ah, cette expression m'inspire à quatre types de prospérité. Moi, je pense que dans la pensée de Jean, il y a la prospérité intellectuelle. Il y a la prospérité intellectuelle, c'est-à-dire que d'avoir une bonne éducation intellectuelle. Il y a aussi la prospérité sociale, de réussir sur le plan social. Il y a la prospérité financière, d'avoir un peu d'argent pour répondre à ses besoins, ses différents besoins, c'est normal. Sans l'argent, on peut pas bouger, on peut pas vivre, hein? D'accord? Mais la vraie prospérité dans la tête de l'apôtre Jean, c'est une prospérité spirituelle. C'est la plus grande, la plus belle, la plus joyeuse. C'est de posséder de la foi, par la foi, la plénitude de la divinité, de la vérité, la plénitude de la vérité, la plénitude de l'amour, la plénitude de la connaissance de la parole de Dieu. Quand quelqu'un est sage, il possède la plénitude de la sagesse, de l'humilité, de la patience, de la paix et de la perfection. Voilà notre responsabilité de demander à Dieu de nous remplir de sa plénitude. Et cette plénitude totale entraîne une bonne santé physique, mentale et spirituelle. Par cette attitude intégrale, nous devenons automatiquement des chrétiens complets et transformés. Le mot plénitude signifie absolu, intégralité, complet. Nous sommes complets devant Dieu parce que nous possédons la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. L'apôtre Jean ajoute dans sa lettre à l'ancien Gaius, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Tout le monde maintenant cherche à avoir la bonne santé. C'est pour cette raison qu'on va voir les médecins. Mais la meilleure santé pour un chrétien, c'est sa santé spirituelle. Si vous êtes malade spirituellement, ah, ça ne va pas du tout. Une âme qui prospère, elle ne vit que de l'évangile, que de la belle vie qui est en Jésus-Christ. Matthieu 4, 4, Christ disait à Satan, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que tu sois en bonne santé, trois types de bonne santé pour moi. Quand il a parlé comme ça, l'apôtre Jean, une bonne santé physique, c'est-à-dire que de pratiquer du sport. Hein? Lisez 1 Corinthiens chapitre 8, verset 24, il faut faire du sport pour le corps, pour que le corps soit solide. Parce que si le corps n'est pas solide, l'âme va être en difficulté. Il faut une bonne santé morale, surtout en ce moment, bien poser la tête, avoir une bonne relation avec son équipe, en tant qu'ancien, en tant que leader, pasteur, avoir une bonne relation avec son église, son entourage, et être en paix avec soi-même. Si vous n'êtes pas en paix avec soi-même, ça va être difficile d'avoir une bonne âme. Une bonne santé spirituelle, c'est le troisième point, c'est d'être confiant et habité par la plénitude de la divinité et de posséder ce qu'on appelle la crainte pour son Dieu selon le psaume 128. Et s'il n'y a pas la crainte pour Dieu, il n'y a pas de bénédiction. Et quand vous avez la crainte pour Dieu, vous devez avoir aussi la crainte pour vos responsables, pour vos conducteurs. La grande joie de l'apôtre dans 3e épître de Jean, le verset 4, c'est l'hospitalité qu'il y avait chez cet ancien. C'est-à-dire que lui, effectivement, il aimait les gens, il aimait sa famille, mais il aimait l'Église aussi. Alors, si vous aimez simplement votre famille, vous n'aimez pas l'Église, là, il y a un problème. De même que vous avez de l'amour profond pour ceux qui sont chez vous, pour vos conjoints, vos enfants, vous devez avoir aussi l'amour profond pour vos responsables, pour votre Église. L'ancien Gaius était comme Philémon de Colosse. Par son hospitalité, il a tranquillisé le cœur des chrétiens, c'est ce qu'il disait Paul. L'ancien avait accueilli généreusement les missionnaires étrangers. Non seulement il avait pris soin de ceux qui étaient à l'église à ses côtés, mais les voyageurs aussi, ceux qui étaient en mission, qui venaient chez lui, qui venaient dans sa communauté. L'ancien avait accueilli généreusement les missionnaires étrangers. Ce serviteur avait eu de la pureté et de la bonté dans son cœur. Il avait de la pureté et de la bonté dans son cœur. Son cœur s'était connecté avec le cœur de Dieu. Ça, c'est très bien, de laisser notre cœur se connecter avec le cœur de Dieu. Et comme là, nous avons un bon cœur. Mais si notre cœur est en dehors de Dieu, là, il y a un problème. L'apôtre Paul déclare aux chrétiens de Philippe, dans Philippiens chapitre 1, verset 8, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Avec la tendresse de Jésus-Christ. Quand nous sommes à Jésus-Christ, nous avons sa tendresse, nous avons son amour, nous avons sa douceur. Notre amour envers les uns et les autres doit être comme celui de Jésus-Christ. Un amour vrai, un amour pur et sans tache. L'immensité de la joie de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean était en joie. Pourquoi? Parce que Gaius, lui, c'était quelqu'un, effectivement, qui aimait les chrétiens, qui aimait les gens. Et ça intéressait Jean, l'apôtre. Il déclare, alors l'apôtre Jean déclare, « Mes enfants engendrés en Christ marchent dans la vérité. Comme vous, vous marchez dans la vérité. » Dans cette église locale, tout le monde était concerné par la vérité et la présence de l'Esprit-Saint. Comme ce matin aussi, vous êtes concernés par la vérité qui est la parole de Dieu, qui est en Jésus-Christ, mais vous êtes intéressés aussi par la présence de l'Esprit-Saint. Il y avait eu de l'engouement dans cette église pour servir le Seigneur, pour servir les autres. Des fois, vous dites, « Ah, moi, je suis à l'église, hein, j'ai ma place, je fais beaucoup de choses à l'église. » Mais vous devez penser aussi aux autres, de prendre soin des autres. Mais que signifie marcher dans la vérité? Parce que Gaius, lui, en tant qu'ancien, il marchait dans la vérité. Marcher dans la vérité, c'est de disposer son cœur à la crainte de Dieu. Vous pouvez lire dans Psaume 86, verset 11. C'est de marcher selon la volonté de l'Esprit-Saint. Maintenant, beaucoup de gens refusent de marcher selon la volonté de l'Esprit-Saint. Marcher dans la vérité, c'est d'imiter Jésus dans toutes ses actions. Ah, car il était le seul à marcher parmi les hommes sans commettre une virgule de péché. Un bon conseil de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, chers bien-aimés, ayez en vous de l'amour, de l'affection, pour vos conducteurs qui vous conduisent dans la vérité. Lisez 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Vous devez aimer mon pasteur, vous devez aimer sa femme, les collaborateurs, les dirigeants, les choristes. Vous devez les aimer parce que ce sont des enfants du Seigneur, comme vous qui avez une grosse responsabilité. Versets 5 et 6 du livre de l'Épître de Jean, bien-aimé Gaius, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Lui, il n'avait pas vu simplement les frères de l'Église, de son Église, mais les frères qui étaient de passage. Tout comme le frère Sylvain qui était de passage, il vous a envoyé un mot de remerciement. Pourquoi? Parce que vous l'avez bien accueilli. Tout comme le pasteur qui a parlé tout à l'heure pour les églises qui étaient à Toulouse. C'est parce qu'il y avait un amour fraternel, il y avait une chaleur spirituelle. Et mais Gaius, lui aussi, c'était pareil. Il accueillait les gens avec le plus beau sourire. Alors, frères et sœurs, chez le serviteur Gaius, chez l'ancien Gaius, il y avait ce qu'on appelle la fidélité, il y avait la charité et digne de Dieu. Il était digne de Dieu. C'est ce que nous avons besoin ce matin pour cette communauté qui est ma communauté, pour que la communauté progresse, avance, toutes les communautés, il faut qu'il y ait de la fidélité, de la charité et digne et être digne de Dieu. Vraiment, mes frères et mes sœurs, nous avons aussi besoin de ces témoignages, ces expressions thérapeutiques que j'appelle thérapeutiques, pour que nous puissions grandir dans notre foi chrétienne. Quand il y a des mots qui encouragent, qui motivent, ça nous donne la force d'avancer vers le Seigneur. Les compliments de l'apôtre Jean à l'ancien Gaius, des compliments, pourquoi? Parce que c'était un bon serviteur, agréable. C'était un serviteur dynamique, hospitalier. Alors, le frère Jean, l'apôtre, était là pour l'encourager. Moi, je pense qu'il faut nous encourager les uns les autres. C'est important. Alors, l'ancien Gaius, tu reçois les gens d'une manière digne de Dieu. C'est ce qu'il a dit, l'apôtre Jean. Gaius, tu as reçu les gens d'une manière digne de Dieu. C'est comme si c'est Dieu qui avait reçu ces personnes. C'est ce que nous devons faire aussi, d'accueillir nos frères avec beaucoup de chaleur, beaucoup de sourire. L'expression d'une manière digne de Dieu, l'ancien reçoit les missionnaires étrangers avec la pensée et le reflet de Dieu. Je reprends. C'est que l'ancien Gaius, que nous n'arrêtons pas de citer, eh bien, lui, il reçoit les missionnaires étrangers avec la pensée et le reflet de son Dieu. La ressemblance d'une vie digne de Dieu se trouve dans la lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse. Éphésiens 4, versets 1 à 3. « Je vous exhorte donc, en moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité. » Avec charité. Au verset 7 et 8 de l'épître de Jean 3, « Les humbles ouvriers sont partis en mission sans rien prendre. » Tout simplement, ils ont appuyé leur foi sur une déclaration de Christ à ses disciples. Luc, chapitre 10, versets 3 et 4, Christ disait à ses disciples, « Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. » Ces missionnaires, au lieu de rencontrer sur les routes des loups, les missionnaires qui allaient voir Gaius sur le chemin, ils ont rencontré la bienveillance d'un homme de Dieu. Au lieu de rencontrer, de faire face à des loups, mais c'était avec un homme saint qui les avait accueillis. Un agneau portant le nom de Gaius, pour moi c'était un agneau. Cet ancien est accueillant, généreux, hospitalier, fidèle et bon. Il marche dans la vérité. Il a deux bons témoignages. Alors, tous ceux qui font partie du gouvernement de l'Église doivent être dignes pour conduire le troupeau de Dieu avec de bons témoignages que nous trouvons dans Actes chapitre 6. Cela exige une vie de sainteté, de sagesse, d'humilité, de patience dans une communion parfaite avec Dieu. En passant par l'efficacité de la prière, pour que vous ayez une vie digne pour servir le Seigneur, il faut qu'il y ait de la prière, de l'enseignement de la parole de Dieu, une bonne relation avec les frères et les sœurs. Alors, la base fondamentale de tout chrétien et de tout niveau la base fondamentale. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous devons appuyer notre foi sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le chrétien en Christ possède quoi ? Il possède la plénitude de la vérité, de la divinité, de l'amour et de la perfection comme Gaius. Dans le cœur et dans l'âme de tout chrétien, il y a quoi ? Il y a la joie, la paix et la sensibilité des âmes. C'est vrai que nous vivons dans un monde, là, il y a toutes sortes de turbulences, mais nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous sommes en paix avec notre Dieu. Le bon fonctionnement d'une communauté chrétienne, un travail en binôme et en toute confiance, en toute sincérité. Être au service de Dieu comme ancien ou autre, c'est dur, dur et très difficile. La charge, elle est lourde. Mais si nous sommes ensemble, on ne va pas sentir effectivement la lourdeur de cette charge. Pour supporter et épauler vos responsables, chers bien-aimés, il faut absolument les éléments indispensables suivants. Oui, ceux qui sont responsables de la communauté, le pasteur en premier, il compte sur vous. La prière, il faut prier. L'affection, c'est important. L'amour, montrer votre amour, l'amour pur. L'encouragement, l'appréciation, la communion fraternelle et des gestes sympathiques. Je reprends. C'est-à-dire que pour que nous ayons de bons ouvriers dans nos communautés, ils ont besoin vraiment de la prière. Ils ont besoin de votre amour, de votre affection. Ils ont besoin de vos gestes sympathiques. Je vais conclure. La conclusion, eh bien, je vais conclure avec le livre de 1 Pierre, chapitre 5. Je ne vais pas lire le passage, mais je vais vous demander de noter dans votre note au moins quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous allez noter? Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 1er, il y a beaucoup de choses que nous pouvons voir ensemble. Mais si vous souhaitez le lire, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Vous pouvez continuer à lire le passage jusqu'au verset 11. Moi, je vais vous demander de faire un résumé. Vous allez noter tout ce que vous allez trouver dans ce passage pour vous montrer que être responsable d'un troupeau, c'est très difficile, c'est très dur, mais le Seigneur est là. Et vous aussi, vous êtes là pour épauler vos anciens, pour épauler vos pasteurs, pour épauler vos choristes. Alors, les mots que vous allez noter, je vais laisser l'affiche. Hein. Témoin, berger, modèle, couronne, humilité, sobre, résistance, fidèle, hospitalier, charité, foi, inébranlable. Et puis, vous allez dire, comme Gaius, hein, l'ancien, qui était un homme vraiment, vraiment rempli d'amour, rempli de générosité, rempli d'hospitalité, moi, comme l'ancien Gaius. Simplement ça. Moi, comme l'ancien Gaius. C'est-à-dire que chez vous, on va trouver de la vérité, on va trouver de l'amour, on va trouver de la fidélité, on va trouver effectivement tous les mots positifs. Parce qu'en vous, il y a la plénitude de la divinité. Quand vous avez la plénitude de la divinité en vous, vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui habitent en vous. Étant donné que le Père et le Fils habitent en vous, eh bien, vous produisez que de l'amour, que de la paix, que de la générosité, que de l'humanité. Au lieu de penser à vous, vous pensez aussi aux autres. Voilà. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.